Radio Okapi.
18h à Kinshasa, bienvenue à la grande édition vespérale dominicale de nos informations avec Jocelyne Moussaou.
Journée internationale de la lutte contre la circulation des armes légères et petits calibres, c'était hier samedi 9 juillet. Au Nord Kivu, les opérations dans le cadre de cette lutte font encore face à d'énormes défis. Nous parlerons également de ces cris de détresse des paysans du diocèse de Popokabaka dans la province du Kwango. Ils manquent d'un tronc agricole et plaident pour un accompagnement du pouvoir ainsi que des partenaires techniques et financiers pour le développement de cette province. Pierre Goussira, chef-bureau du PNUD de Bukavu, est notre invité. Il reviendra sur l'apport du PNUD dans la mise en œuvre du programme de développement local dans les 8 territoires que compte la province du Sud Kivu. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, la lutte contre la circulation des armes légères et petits calibres fait encore face à d'énormes défis. C'est entre autres la mégestion observée dans les dépôts des munitions, la porosité des frontières, la présence des groupes armés, mais aussi les défections des militaires qui partent avec armes et munitions. Constat fait hier samedi à Goma par la synergie des luttes anti-mines SILAM, l'un des acteurs majeurs du domaine. C'était à l'occasion de la journée internationale de destruction des armes légères et des petits calibre célébré chaque 9 juillet. Dans une déclaration, Marion Ngavo, coordonnateur national de cette ONG, salue tout de même des actions menées par la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Il est au micro de Sifa Maguro.
Il y a eu plus de 20 923 armes sécurisées. Il y a eu plus de 1658 armes détruites, défectueuses, au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri et le Congo central. Ces armes sont provenues de la MONUSCO, c'est-à-dire retirées auprès des groupes armés, mais aussi sont venues des dépôts de la PNC et des FARDC. Il y a eu aussi 952 coffres forts installés au bénéfice de l'ICSN, qui est l'Institut congolais de la conservation de la nature, les FARDC, mais aussi la PNC. Il y a eu 8 armureries qui ont été construites, plus de 8000 officiers des forces de sécurité congolaise ont été formés dans la gestion des ALPC et, pour noter enfin, depuis le 6 janvier 2019 à ce jour, nous avons eu 7000 armes de la PNC et des FARDC qui ont été marquées, ça veut dire, sur lesquelles on a mis les numéros pour être identifiés.
Le coordonnateur national de SILAM déplore par ailleurs les conséquences dues à cette prolifération d'armes, notamment la persistance de la criminalité à l'est de la RDC, l'enrôlement et l'exploitation des enfants, le pillage des ressources et bien d'autres. Dans le territoire de Nirangongo, remis hier samedi, des 120 logements sociaux aux sinistrés dès l'éruption volcanique du 22 mai 2021, c'est le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, qui a présidé cette cérémonie. Les bénéficiaires, le chef de la chefferie et l'administrateur du territoire ont salué ce don du gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Un geste de générosité qui vient d'offrir des logements à des familles qui ont passé plus d'une année dans des provisoire et des fortunes. Sifa Maguru pour les détails.
Située au village Buhama à Kibati, la cité dite de la cohésion nationale a été construite sur financement du gouvernement provincial du Lualaba à travers son gouverneur intérimaire, Madame Fifi Masuka. Ces travaux, dont le coût n'a pas été révélé, ont duré presque 10 mois. D'après son maître d'ouvrage, chaque logement comprend des chambres à coucher et un salon. La cité dispose également d'un terrain de basketball, un marché, une infirmerie et un poste de police. Desservie déjà en courant électrique, la cité organise provisoirement une adduction d'eau par camion en attendant la desserte en eau potable, précise nos sources. Rappelons qu'environ 3 à 4 000 autres ménages des sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai 2021 attendent toujours des logements définitifs promis par le gouvernement central. Ces derniers vivent encore dans les sites provisoires du gouvernement en territoire de Nyiragongo. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
En Ituri, l'armée annonce ce dimanche l'arrestation du soldat FRDC qui a battu le vendredi dernier un civil présenté comme journaliste par l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme. Selon le porte-parole des opérations militaires en Ituri qui condamne cet acte, l'auteur de ce meurtre a été appréhendé par ses compagnons d'armes le même vendredi après qu'il a commis ce forfait. Il sera jugé dans les prochains jours en procédure de flagrance, a précisé le lieutenant Jules Ngongo. Cependant, les autorités militaires disent dénier à la victime la qualité de journaliste qui, selon elle, serait plutôt un réparateur de motos. Le lieutenant Jules Ngongo est joué au téléphone par Jean-Claude Doki.
Le militaire qui a commis cet acte a été appréhendé. Pour le moment, le monsieur est à l'état-major au niveau des commandants. Quelle que soit l'identité, parce que là aussi il y a un problème. Les uns parlent que c'est un ancien journaliste, les autres parlent que c'est un réparateur de motos. Et c'est de là que l'acte a été commis. D'après les informations que nous avons, il y a eu dispute entre cet élément parce que lui réparait sa moto. Quelle que soit sa qualité, journaliste ou moto, ou chauffeur, c'est inacceptable de ôter la vie à quelqu'un. Pour réprimander et redynamiser la discipline au sein des éléments de forces armées en cette période de l'état du siège, ce monsieur a été arrêté. Un de ces quatre matins, il sera jugé en flagrant parce que nous ne sommes pas là pour tolérer l'indiscipline au sein des forces armées.
Pour l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, antenne de l'Ituri, Shadrach Senghi, la victime, était bel et bien journaliste à la radio Nouvelle Horizon. Dans la province du Kwango, je l'ai dit dans les titres, les paysans éprouvent d'énormes difficultés dans leur organisation et association pour bien faire les champs. La province manque d'un tronc agricole et ne dispose même pas d'un tracteur afin de permettre d'augmenter la production des agriculteurs. C'est ce que déplore le président de la Fédération des organisations paysannes du diocèse de Popokabaka. Symphorien Kwango plaide pour un accompagnement du pouvoir central ou provincial et des partenaires techniques et financiers pour le développement de cette province. Irène Bouma.
Le Kwango est une province réputée à vocation agricole. Cependant, elle est habitée par d'énormes difficultés qui ne lui permettent pas d'émerger pleinement dans cette vocation. Il s'agit de difficultés liées notamment au manque d'intrants agricoles, entre autres les semences améliorées. Selon Symphorien Kwango, président de la Fédération des organisations paysannes du diocèse de Popokabaka qui le dit, cette situation fait que la production agricole soit toujours faible ces derniers temps, surtout dans ce diocèse. Il plaide pour un appui au auprès des autorités attitrées et des partenaires afin de permettre aux paysans de ces coins d'accroître leur production.
Nous avons le manque de semences de qualité, également le manque de matériel aratoire. Vous imaginez une grande province, on n'a même pas un tracteur en bon état. Mais le plus important, ce sont les semences qui nous manquent. Quand on n'avait pas la semence de qualité, vous ne pouvez pas augmenter votre production agricole.
Symphorien Kwango ajoute qu'outre les problèmes liés au manque d'intrants agricoles, les paysans de la province du Kwango sont aussi bités pour manque de routes de dessertes agricoles. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'annonce par la chef d'agence de la SONAS Maniema des modifications des tarifs à sa société. Pour Madame Viviane Bendera, l'assurance obligatoire RS automobile passe de $58 à $100 américains par moto sur l'ensemble du territoire national. Cette dernière fait savoir que ces prix est fixé par l'autorité des régulations des assurance en RDC. La patronne de la SONAS, Maniema, invite ses assujettis à payer leur assurance automobile à ce nouveau tarif. Viviane Bendera, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Les tarifs viennent d'être modifiés au niveau général. C'est-à-dire ce n'est pas la SONAS qui a modifié les tarifs, c'est l'autorité des régulations qui nous régit actuellement dans les domaines des assurances. Donc les motos ont augmenté $100 maintenant, une moto pour une année. Et si vous ajoutez l'individuel occupant auto qui couvre les conducteurs, vous avez $120 pour une année. Mais si vous voulez une assurance à court terme, soit 6 mois, soit 7 mois, là vous payez $60. Pourquoi l'autorité de régulation a haussé les prix de la moto? Tout simplement vraiment parce qu'on a fait les études et on a constaté de par notre pays, le taux de sinistres des motards est élevé, ça c'est un. Et puis deuxièmement, la SONA, société étatique avec les concurrents, c'est-à-dire d'autres sociétés privées qui nous ont rejoints dans ce secteur, on avait chacun son tarif. Alors ce qui n'est pas normal, parce que si la SONA est à 58 et que les autres sont à 45, ça fait comme si la SONA est plus chère que les autres. Alors l'autorité de régulation a jugé bon que les tarifs soient uniformes. Pour les règlements forcés, je crois qu'à partir de mercredi, nous allons contrôler les documents de bord avec l'appui des autorités ainsi que les services attitrés.
Le Centre d'études pour l'action sociale et les organisations de la société civile recommandent au gouvernement de revoir à la hausse de juillet à décembre 2022 l'exécution des travaux d'investissement qui touchent directement les Congolais tout en réduisant l'exécution des dépenses de fonctionnement et de rémunération. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Kinshasa Jacques Kachelewa, consultant au CEPAS, lors de la cérémonie de la présentation des résultats du rapport d'analyse de l'exécution du budget de l'État à mi-parcours. Cet acteur de la société civile qui salue les efforts des régies financières demande au gouvernement de limiter les ordonnancements des dépenses en procédure d'urgence. Les propos de Jacques Kachelewa ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
L'objectif de l'analyse à fin mai, c'est pour permettre à déceler les incohérences et permettre à ce que nous puissions faire des propositions, des recommandations pour que le gouvernement puisse améliorer le reste du temps de l'exécution du budget. On reproche au gouvernement l'indiscipline budgétaire. L'autorité budgétaire fixe les limites des crédits alloués à chaque institution et ministère. Mais dans l'exécution, nous nous rendons compte qu'il y a des institutions et des ministères qui consomment au-delà des crédits que le Parlement leur a accordé. Au sein même de leur budget crédit, leur alloué, il y a des rubriques que nous, société civile, nous considérons que des rubriques fourre-tout, intervention économique, prend les décis dans l'exécution de leur budget. Et cela, ça empiète les autres services de bénéficier des crédits pour faire bien leur travail. On reproche au gouvernement le non-respect de la chaîne de la dépense. Les institutions qui ont excellé, c'est la présidence, la primature, secrétariat général du gouvernement, Sénat, il y a les ministères, notamment aménagement du territoire, des relations avec le Parlement.
Province de la Tchopo, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a sensibilisé samedi dernier les entrepreneurs et organisations locales sur le processus relatif à la compétition en vue de gagner un marché public. Ceci en prévision du lancement au mois d'août prochain des appels d'offres qu'il va lancer dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement local des 145 territoires. Jacques Mkonkole.
Cette sensibilisation a pour objectif de préparer l'expertise locale à gagner le marché et en passant contribuer au développement économique local de leurs entités. Anasazi Manzanga, délégué du représentant pays du PNUD en RDC, évoque ici une des conditions requises pour l'acceptation d'un dossier.
Si une entreprise qui travaille dans la province de la Tchopo, par exemple, n'arrive pas à payer les impôts, il sera difficile de contracter avec une telle entreprise parce que le PNUD prône aussi la bonne gouvernance, la rédévabilité et la transparence dans la gestion de tout ce que nous sommes en train de faire.
De leur côté, les entrepreneurs disent disposer des capacités techniques nécessaires. Cependant, ce sont des exigences financières qui s'avèrent très rigoureuses, a insisté leur porte-parole, l'ingénieur Michel Ndjadi.
Il faut disposer 2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années. Nous n'avons pas cette capacité. Facilitez-nous les tâches. C'est-à-dire, quand on dépose les dossiers, on nous a toujours exigé d'amener la garantie de dépôt. À la place de la garantie de dépôt, vous pouvez commencer à prélever sur nos factures.
Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Joseph Tofindo, exhorte les futurs soumissionnaires à se réunir en association afin de remplir les conditions exigées par le PNUD. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, lancement samedi des travaux de construction du bâtiment qui va abriter la morgue de l'hôpital général de référence de Moussienene. C'est à une dizaine de kilomètres au sud de la ville de Butembo, dans le territoire de Lubero. Ces travaux sont financés par la Fondation Julien Paloukou, à la grande satisfaction de la communauté locale qui verra pour la première fois une morgue dans cette entité. Grâce à Mzati, reportage.
Le coût global des travaux de construction de ces bâtiments et de l'achat de la chambre froide, financé à 100% par la Fondation Julien Paluku Kaongia, est évalué à plus de 35 000 dollars américains. Les acteurs de la société civile ainsi que les autorités coutumières et sanitaires de la zone saluent cette initiative qui, selon eux, vient répondre à un grave besoin qui se ressentait dans la communauté. Docteur Kaindo Mate Elisabeth est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Moussienene.
Ça fait plus de 5 ans que nous avons envoyé des lettres passées par là pour chercher à ce qu'on puisse répondre à notre besoin de construction et d'achat d'une morgue à l'hôpital général de référence de Moussienene. Nous ne savions pas comment gérer les corps. La plupart, on les enterrait le même jour parce qu'on ne savait pas comment les gérer.
Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Moussienene indique qu'une fois opérationnelle, cette morgue va desservir plus de 300 000 habitants de sa zone de santé et d'ailleurs. Toutefois, Dr Moussaba Okeoke-Oblaise affirme que l'hôpital mettra en place des mécanismes de gestion de cet ouvrage pour sa pérennisation. La durée des travaux ne nous a pas encore été révélée. Boutembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Togo, une explosion d'une mine artisanale a fait 7 morts, des enfants âgés de 10 à 15 ans à Nation, dans la région des savanes, dans le nord du pays. Dans la nuit de samedi à ce dimanche 10 juillet, indique plusieurs sources, les enfants étaient à bord d'un véhicule qui a sauté sur la mine. Les restrictions imposées par la Russie aux exportations des céréales ukrainiennes pourraient avoir contribué aux troubles au Sri Lanka, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a exprimé la crainte qu'elle ne déclenche d'autres crises.
L'invité.
Lancement vendredi à Bukavu du programme de développement local des 145 territoires au Sud Kivu. C'est le gouvernement provincial du Sud Kivu qui a lancé ce programme en partenariat avec le PNUD. Étant une agence d'exécution, le gouvernement se sert du PNUD pour la mise en place du programme de développement local dans différents territoires du pays. Pierre Goussira, chef de bureau du PNUD Bukavu, revient sur l'apport du programme national, du programme des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre du programme de développement local dans les 8 territoires que compte la province du Sud Kivu. Il s'entretient avec Rachel Kessy.
Pierre Goussira, bonjour.
Bonjour.
Quel est le rôle spécifique du PNUD dans le programme des développements locaux de 145 territoires?
Le programme des Nations Unies pour le développement a joué un grand rôle d'abord dans l'élaboration du programme. Il a appuyé le gouvernement pour aller essayer d'apprendre chez les autres, spécifiquement au Sénégal. Une délégation de la République démocratique du Congo est allée au Sénégal pour voir ce qui a été fait dans le même cadre des programmes de développement local. À la fin de la production du programme, le gouvernement central a trouvé opportun de se servir aussi du PNUD pour l'exécution du même programme. Nous sommes une agence d'exécution. Nous ne sommes pas les propriétaires du programme. C'est un programme du gouvernement.
Mais quelles sont les principales actions qui ont été retenues pour le 8 territoires de la province du Sud Kivu?
Les actions sont similaires dans toutes les provinces au niveau national. On a 4 axes. Les 4 axes portent sur les infrastructures, ensuite sur l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'éducation, à la santé, et même l'accès physique, c'est-à-dire l'ouverture des routes, mais aussi essentiellement la construction des infrastructures pour l'administration publique au niveau des territoires, essentiellement, et au niveau des autres services de sécurité qui sont liés au territoire. L'autre particularité pour ce programme, c'est que à partir du bureau du président à Kinshasa, parce que tout ce qui sera fait sera géoréférencé, il pourra entrer sur sa machine et voir ce qu'on a fait à tel endroit, parce que toutes les données seront prises et comme ça, il peut suivre lui-même là-bas ou son cabinet ou même les gouverneurs de province au niveau d'ici. Ce qui est particulier, c'est vraiment que ça va alimenter une base de données au niveau national.
Pour la bonne mise en œuvre de ce programme, une mission préparatoire de mise en œuvre sera couverte par le PNUD. Parlez-nous-en.
C'est que maintenant, on vient de lancer le programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la liberté de commencer l'exécution. Mais comme la plupart des actions, c'est des actions de construction et d'aménagement, il y a des équipes, des ingénieurs qui vont descendre sur le terrain à partir de lundi. Et ils vont aller dans tous les territoires pour localiser tout ce qui a été cité dans les documents. Par exemple, on dit telle école, dans tel territoire, dans telle chefferie, dans tel groupement, dans tel village. Ils vont aller là-bas et voir si effectivement cette école-là existe. Est-ce que l'école a tous les documents légaux qui font que l'école est reconnue. Est-ce que si on doit construire une école, est-ce que la parcelle appartient effectivement à l'école? Parce que on dit que qui construit chez autrui, construit pour autrui. Et donc, tous ces éléments-là vont être collectés. L'autre élément, c'est le niveau de l'accès. Est-ce qu'on peut facilement accéder à ces endroits-là? L'autre élément que nous allons collecter sur le terrain, c'est effectivement la convergence des actions qui ont été proposées par le gouvernement avec les priorités locales sur le terrain.
Quelles sont les principales préoccupations et les défis liés à la mise en œuvre de ce programme dans notre province?
Je crois que j'ai reçu déjà une dizaine de documents, une dizaine de dossiers. Un dossier est venu de Chabunda, un dossier est venu de Walungu, un dossier est venu de Idjui, un dossier est venu de la société civile. Et tous, ils sont en train d'apporter leurs observations et leurs propositions pour l'amélioration du projet. Soit les uns disent que le budget a été mal réparti entre les entités d'un même territoire. Au niveau de la province du Sud-Kivu, c'est 80 millions de dollars. Alors, vous pouvez considérer 10 millions de dollars par territoire. Les autres disent, par exemple, que leur priorité, c'est pas ceci ou c'est cela, ainsi de suite. Je pense qu'on va ramasser tout ça. Les défis, il y en a toujours dans le travail humain. C'est surtout les défis logistiques et les défis sécuritaires. J'espère que ça va être géré par l'autorité, comme c'est un programme du gouvernement. Au niveau interne du PNUD, on a un défi majeur qui nous empêchait de faire le travail. C'est les procédures. Mais le PNUD a adopté un mode qu'on appelle fast track, c'est-à-dire on essaie d'abréger les étapes de la livraison des actions. Par exemple, maintenant, on a déployé toutes les équipes. En moins d'une semaine, toutes les équipes sont dans les 9 provinces, même les provinces qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire qu'on a adopté des mécanismes qui peuvent nous permettre d'aller plus vite et de faire le travail. La présentation montrera le calendrier d'exécution et vous donnera une idée sur quand est-ce que les premiers ouvrages pourront être présentés au gouvernement.
Pierre Goussira, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Fin de ce journal, coordonné par Alain Irung et mise en onde par Mimi Kindou. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi.